VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, le monde aujourd'hui, édition du mardi 19 juillet 2016, en direct de Washington DC, la capitale des États-Unis. Eric Manilakidza et Anne Albertson avec vous à la une ce matin.
L'Union africaine convient de renforcer sa mission au Soudan du Sud.
Affrontement entre policiers et étudiants à Abidjan.
Le pouvoir turc a intensifié ce lundi les purges après le putsch manqué contre le président Erdogan. Les États-Unis et l'Union européenne mettent en garde Ankara.
Coup d'envoi hier de la convention républicaine à Cleveland pour sacrer Donald Trump. L'atmosphère à l'ouverture, le contenu des discours. C'est avec nos envoyés spéciaux Nicolas Pineau et Idrissa Seydoudia.
Et ne manquez pas les sports et l'économie.
Mais d'abord, le journal.
Le sommet des chefs d'État africains qui s'est terminé hier à Kigali s'est prononcé pour l'envoi d'une force régionale de protection au Soudan du Sud avec un mandat plus robuste que celle de la mission onusienne sur place. Morgane Guiriec.
D'après Smaïl Cherghi, commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, l'ONU n'a pas le mandat pour imposer la paix et les troupes africaines sont prêtes à s'engager dans des situations très difficiles. L'Éthiopie, le Kenya et le Rwanda sont prêts à fournir des troupes, mais le feu vert du Conseil de sécurité est nécessaire. Il faudra aussi convaincre le président Salva Kiir d'accepter le principe d'une telle force, alors qu'il a récemment affirmé ne pas vouloir un soldat étranger de plus dans son pays. Par ailleurs, la mise en place d'un embargo sur les armes n'a pas abouti. L'Ouganda, qui entretient des relations très étroites avec M. Salva Kiir, s'y est opposé. La force onusienne, avec quelque 12 000 casques bleus, a été critiquée pour n'avoir pas réussi à endiguer les derniers affrontements à Djouba. En 4 jours de combat, il y a eu au moins 300 morts et des dizaines de milliers de déplacés.
En Côte d'Ivoire, l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan a encore été hier le théâtre d'affrontements entre policiers et étudiants. Les détails avec Arzuma Compaoré.
Les étudiants en grève depuis une semaine tentaient de tenir un meeting sur le campus. Ils ont été dispersés par la police. Sinclair Alla, secrétaire général de la FESI, la Fédération étudiantine et scolaire de la Côte d'Ivoire, affirme qu'il y a eu une trentaine de blessés et une dizaine de personnes ont été interpellées. Des étudiants en colère ont saccagé des bureaux et incendié des véhicules. Un porte-parole du ministère de l'Intérieur a confirmé les faits, soulignant que la police a été déployée sur le campus pour y remettre de l'ordre. Le climat à l'université située à Cocody est tendu depuis plusieurs semaines. Il y a déjà eu de soubresauts après l'arrestation d'un leader de la FESI. Des échauffourées avaient suivi un ordre d'évacuation des résidences universitaires. Le 17 juin, un étudiant renversé par un véhicule de police est décédé. La FESI, syndicat proche de l'ex-président Laurent Gbagbo, est à l'origine de manifestations parfois violentes sur le campus.
Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a dénoncé hier les retards dans les procès d'anciens dignitaires accusés de corruption. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Pour le président Muhammadu Buhari, quand les dossiers ne vont pas au bout, on donne la mauvaise impression que le crime paie. Il a ajouté « cela doit changer ». Autrement dit, il faut accélérer la cadence. La lutte contre la corruption a été l'une des priorités affichées du chef de l'État nigérian depuis son élection à la tête du Nigeria. Le plus gros scandale éclabousse l'armée. Plus de 2 milliards de dollars destinés à la lutte contre Boko Haram ont été détournés. L'ancien conseiller à la sécurité nationale, Sambo Dasuki, est accusé d'avoir orchestré des contrats fantômes avec des firmes d'armement alors que des soldats sous-équipés périssaient sous les balles des djihadistes dans le nord-est du pays. Ce dossier a subi des retards et renvois répétés, empêchant M. Buhari de pouvoir se vanter d'une seule condamnation depuis son arrivée au pouvoir il y a un an. Ses opposants l'accusent de mener une chasse aux sorcières contre l'administration de son prédécesseur, Goodluck Jonathan.
Jean-Roger Bion. Dans un rapport confidentiel au Conseil de sécurité, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, s'est inquiété de l'implantation probable des cellules du groupe État islamique ailleurs en Libye ou en Afrique du Nord. Ces groupes ont été chassés de leur fief de Sirte.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis, l'Union européenne et l'OTAN mettent en garde la Turquie contre toute tentation de répression généralisée après le coup d'État avorté. Nanit Talani.
Lors d'une conférence de presse hier à Bruxelles avec la chef de la diplomatie européenne Federica Mogherini, le secrétaire d'État américain John Kerry a prévenu que la vigilance sera de mise dans les prochains jours. La chancelière allemande Angela Merkel a appelé hier le président turc pour lui demander de traiter les putschistes en respectant l'état de droit, ajoutant qu'aucun pays ne peut adhérer à l'Union européenne s'il introduit la peine de mort. Le président Recep Tayyip Erdogan avait évoqué l'idée alors que la peine de mort a été abolie en 2004 dans le cadre de la candidature d'Ankara à l'entrée dans l'Union européenne. Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN, dont la Turquie est membre, a déclaré pour sa part qu'il est essentiel pour tous les alliés de respecter la démocratie, l'ordre constitutionnel, l'état de droit et les libertés fondamentales. Le putsch manqué en Turquie a fait au moins 300 morts, dont plus de 100 mutins. En outre, plus de 6 000 militaires, 755 magistrats et 100 policiers sont en garde à vue.
Nanit Talani. En France, cinq jours après l'attentat de Nice, le gouvernement va demander aujourd'hui aux députés de prolonger l'état d'urgence pour trois jours. Mais la droite réclame plutôt des mesures antiterroristes plus musclées. À Nice, dans la nuit de lundi à mardi, une chaîne humaine composée de centaines de personnes a déplacé dans l'émotion les fleurs, peluches et mots d'hommage déposés sur la promenade des Anglais vers deux lieux de recueillement à proximité avant que la voie soit ouverte en totalité à la circulation.
Les députés britanniques ont très largement voté hier soir en faveur du renouvellement de quatre sous-marins nucléaires Trident du pays. Cela coûtera au moins 41 milliards de livres, c'est-à-dire 49 milliards d'euros. La première ministre Theresa May l'a défendu devant le Parlement à l'occasion de son premier discours, parlant d'assurance ultime pour la sécurité du pays. De son côté, le ministre britannique des Affaires étrangères, Boris Johnson, doit avoir jeudi à Washington des entretiens consacrés à la lutte contre le groupe djihadiste État islamique.
Un jeune demandeur d'asile afghan de 17 ans a grièvement blessé quatre passagers d'un train à la hache et au couteau hier soir en Allemagne. Tué par la police après, les autorités ont évoqué un probable attentat terroriste.
La Corée du Nord a tiré trois missiles balistiques vers la mer du Japon ce mardi. C'est ce qu'a indiqué l'armée sud-coréenne. Il y a un peu plus d'une semaine, Pyongyang avait menacé de lancer une action physique contre un système antimissile américain déployé en Corée du Sud.
Les risques de famine et de pénurie générale s'accroissent pour les plus de 200 000 habitants des quartiers contrôlés par les rebelles à Alep, désormais totalement assiégé par l'armée syrienne.
Fin de ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Présidentielle américaine 2016, la convention républicaine a débuté hier à Cleveland sur une bruyante révolte des anti-Trump. Mais leur révolte a fait long feu. Nicolas Pinon et Idrissa Seydou Dia sont les envoyés spéciaux de VOA Afrique à Cleveland pour nous faire vivre cette convention en temps réel. Nicolas Pinon, bonjour.
Bonjour Eric.
Au premier jour de cette convention, nous avons vu des manifestations et pour le moment, les manifestations ont été plutôt pacifiques.
Oui, quelques centaines de manifestants, pas d'incident à signaler. Tout s'est déroulé pour le moment dans la bonne humeur. Les organisateurs ont laissé trois endroits dans la ville pour permettre aux pro et anti-Trump de défiler sans perturber la convention républicaine à quelques centaines de mètres de là. Je vous propose d'écouter l'un d'entre eux, il s'appelle Lucas Selic et ne soutient pas du tout Donald Trump.
Donald Trump est à l'opposé des valeurs américaines. Il veut nous isoler du monde. Il a un esprit méchant contre beaucoup de gens. Je pense qu'il ne se bat pas pour les gens qui travaillent. Il favorise les riches. Je pense que son plan fiscal ne favorise pas ceux qui travaillent, mais les riches.
Voilà pour ce militant anti-Trump qui manifestait hier dans les rues de Cleveland.
Nicolas, vous êtes aussi entretenu avec des délégués qui désigneront jeudi Donald Trump pour porter les couleurs du Parti républicain.
Ils sont un peu moins de 2500 venus de tous les États du pays. Trump, vous le savez, a largement remporté les primaires, mais le processus a laissé des traces au sein du parti puisque de nombreux sénateurs, représentants ou gouverneurs ont préféré ne pas venir à cette convention, sans parler des Bush, père et fils. Écoutons Michael McMullen, un délégué de Pennsylvanie sur la côte est américaine. Il pense que le parti ressortira unifié de cette convention.
Il faut être un parti unifié. Bien sûr qu'il y aura des factions, des renégats, mais vous savez, c'est comme ça. Le but ultime, c'est d'être uni, d'avoir un parti uni et de battre Hillary Clinton en novembre.
Voilà pour ce délégué du Parti républicain. Autre thème, c'est le manque de diversité. C'est une critique souvent adressée contre le Parti républicain, notamment après les propos très durs de Donald Trump contre les Mexicains. J'ai posé la question à un délégué afro-américain du Texas. Il s'appelle Christopher Harvey.
Parce qu'il se présente en tant que républicain aujourd'hui, on voit les injures racistes, soi-disant. Il n'a jamais empêché les Noirs ou les Hispaniques d'avoir un emploi ou de progresser. Donc je ne vois pas d'où les accusations de racisme proviennent.
Voilà pour la réaction de ce délégué du Texas. On se retrouve demain, Eric.
Merci, Nico, pour tous ces détails. Je rappelle que vous êtes l'œil de VOA Afrique à Cleveland pour la Convention républicaine. Dans la soirée, plusieurs orateurs se sont succédés sur le podium pour vanter les mérites de leur champion Donald Trump. Le thème politique du jour était la sécurité aux États-Unis et à l'étranger. Ils ont profité de cette tribune pour s'en prendre à sa rivale démocrate Hillary Clinton. Idrissa Seydoudia a les détails.
Surprise à la convention républicaine de Cleveland, Donald Trump, rompant avec la tradition, est venu personnellement lundi soir au site de la convention. C'était pour présenter sa femme, Melania, qui devait prononcer un discours devant les délégués.
The next First Lady of the United States.
Une future première dame d'origine slovène, elle a vanté les mérites de son mari et le mouvement dont il est à la tête et qui a abouti à sa prochaine intronisation en tant que candidat du Parti républicain pour la présidentielle de novembre. Melania Trump a tenté de révéler au public un visage qu'il semble ignorer, celui d'un homme qui est dur quand c'est nécessaire, mais qui sait être tendre, comme peut en témoigner sa famille.
Donald intends to represent all the people.
Selon Melania Trump, son mari est pour tout le monde, chrétien, juif, musulman, africain, américain, asiatique, pauvre, classe moyenne, etc. En conclusion, elle a assuré que son mari est fin prêt pour diriger cette nation.
Donald J. Trump is ready to serve and lead this country as the next president of the United States.
Controverse déjà ici à Cleveland, où d'aucuns ont comparé le discours de Melania Trump à celui qu'avait prononcé en 2008 Michelle Obama en parlant des valeurs de son mari et aussi des valeurs que lui avaient inculquées ses parents, etc. Alors, c'est une affaire à suivre.
We must not be afraid to define our enemy.
Avant que Donald Trump ne bouleverse le programme en se présentant à la convention avant jeudi, la soirée baptisée Make America Safe Again, restitue à l'Amérique sa sécurité, avait été consacrée à des discours axés sur Benghazi et l'immigration illégale. L'ancien maire de New York, Rudolph Giuliani, connu pour ses positions plus que pro-force de l'ordre. Tous ces discours visaient assurément à montrer, vu tous les récents événements tragiques à Paris, à Bruxelles, aux États-Unis et ailleurs, que tout cela était dû à la faiblesse de Barack Obama et d'Hillary Clinton, son ancienne secrétaire d'État, qui ont même peur d'utiliser les mots terroriste, islamiste, extrémiste. Et Clinton a été blâmé aussi pour le chaos qui règne maintenant en Libye et la montée du djihadisme dans ce pays après la chute de Kadhafi. Les discours des parents de victimes d'immigrés clandestins visaient simplement à mettre en exergue les positions de Donald Trump sur le mur qu'il promet de construire à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Idrissa Seydoudia à Cleveland, dans l'Ohio.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAafrique.com. À tout de suite. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour en République démocratique du Congo. C'est toujours l'incertitude sur la tenue éventuelle de l'élection présidentielle. Le mandat du président Joseph Kabila va bientôt se terminer et aucune date n'est retenue pour choisir son successeur. Une délégation de l'opposition est venue à Washington la semaine dernière. Idriss Fall a eu un entretien avec Olivier Kamitatou, président de l'Alliance pour le renouveau du Congo et vice-président du G7, un groupe de cette partie politique passé à l'opposition.
Une élection est toujours possible quand il y a la volonté politique. Or, la volonté politique, manifestement, elle n'est pas là. On peut même dire qu'il y a eu un sabotage délibéré du processus électoral pour organiser soit une extension du mandat ou peut-être d'autres arrière-pensées. Il y a une constitution en République démocratique du Congo. Et cette constitution précise qu'un mandat présidentiel, c'est 5 ans, qu'il peut être renouvelé une seule fois. 5 plus 5 égale 10. Donc, au-delà de ce mandat, nous devons considérer que Joseph Kabila a échoué et qu'il doit remettre le pouvoir.
Monsieur Kabila vous appelle au dialogue, vous répondez quoi?
Eh bien, nous disons que le dialogue Meding Kabila, tel qu'il l'a convoqué en novembre 2015, était simplement un artifice pour prolonger son mandat. Nous n'avons pas souscrit à ce dialogue, mais bien entendu, nous souscrivons à des négociations pour trouver ce qu'on pourrait appeler un accord électoral, que nous puissions discuter clairement et des points qui nous permettent d'aller aux élections le plus rapidement possible. Le calendrier électoral, prioriser maintenant l'élection présidentielle et ne pas parler d'élections locales, municipales ou provinciales. Nous devons également nous mettre d'accord sur le fichier électoral, enregistré entre 7 et 10 millions de jeunes électeurs qui ont entre 18 et 25 ans. Faut-il revoir tout le fichier électoral ou faut-il simplement nous concentrer pour aller au plus vite vers ceux qui n'ont pas encore de carte d'électeur? Nous devons parler du financement. Le financement des élections a été délibérément saboté par le gouvernement. Nous devons parler également de l'indépendance de la CENI. Toute l'opposition maintenant parle d'une seule voix. Nous ne sommes pas contre un dialogue. Nous appelons ça plutôt des négociations. Nous sommes contre un dialogue pour violer la Constitution. Pour massacrer la Constitution, nous sommes pour des négociations qui respectent la Constitution.
Si le blocage persiste, est-ce qu'il n'y a pas de risque, comme le pays habitué à des rébellions à n'en plus finir, particulièrement au Katanga?
Bien entendu, il y a des risques importants. Ce que nous voulons clairement, c'est éviter la burundisation du Congo. Nous voulons éviter de retomber dans des conflits. Nous voulons éviter la violence. Nous voulons éviter l'instabilité. Et pour cela, nous appelons le président Kabila à se ressaisir, à dire clairement qu'il ne sera pas candidat à un troisième mandat. D'abord qu'il commence par là, qu'il réouvre l'espace politique, qu'il libère les prisonniers politiques, qu'il cesse les poursuites judiciaires contre les opposants, qu'il réouvre les médias privés, qu'il cesse le dédoublement des partis politiques, qu'il s'investisse réellement maintenant pour des élections et qu'il sorte par la grande porte.
Olivier Kamitatou, président de l'Alliance pour le renouveau du Congo et vice-président du G7, un groupe de cette partie politique passé à l'opposition.
VOA Afrique en RDC à Lubumbashi sur 102.8 FM.
11 otages dans le maire de la ville de Lakdo, au nord du Cameroun, ont retrouvé leur liberté après plus d'un an en captivité. Ils avaient été enlevés par des groupes armés centrafricains. Les 11 anciens otages ont été reçus par les autorités camerounaises. Le reportage est signé Moki Edwin Kinzeka à Yaoundé.
C'est une foule parmi laquelle deux ministres et les militants du RDPC parti au pouvoir qui applaudit l'arrivée de Mama Abakaï, maire de Lakdo, et 10 autres anciens otages à Yaoundé. Selon Joseph Betty Assomo, le ministre délégué à la présidence du Cameroun chargé de la défense, leur libération a été supervisée par le président Paul Biya.
Tout ceci s'est fait sous la houlette et sous la coordination personnelle du chef de l'État, de manière efficace. C'est un dénouement heureux dont nous nous réjouissons tous.
Mais le maire de Lakdo, Mama Abakaï, se rappelle des mauvais traitements qui leur ont été infligés pendant 16 mois dans les camps du groupe armé centrafricain.
Vous êtes enchaînés deux à deux, vous avez un litre d'eau à partager à deux toute la journée, vous mangez une fois 14 heures, vous n'avez que le couscous qui n'est que la farine de manioc. On n'a pas eu de variation pendant tout ce temps. Perdre espoir, à un certain moment, nous avons perdu l'espoir. Et la dernière tentative, c'est qu'ils nous ont dit qu'ils nous donnaient une date butoir qui était le 31 juillet 2016. Si le gouvernement ne réagissait pas, ils nous finissaient parce qu'ils avaient déjà assez à nous garder.
Deux otages ont été déclarés morts suite à ces mauvais traitements. Un des otages, Daouda Abdoulaye, explique qu'ils ont été arrêtés par un groupe armé qui réclame la libération de la République centrafricaine.
A été levé par un groupe de soldats. Ils sont du front de FDPC, donc Front démocratique du peuple centrafricain, guidé par Aboubacar Sidiki.
Le Cameroun dit n'avoir payé aucune rançon pour leur libération, mais les anciens otages expliquent que les groupes armés réclamaient de l'argent avant de les libérer. Moki, Edwin Kinzeka, VOA Afrique, Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Belle mélodie. Cette semaine, le plan d'urgence du président des États-Unis pour lutter contre le sida PEPFAR se joint à des milliers de partenaires pour la 21e conférence internationale sur le sida durban en Afrique du Sud. Nathalie Barge a joint à Kinshasa le docteur Marcel Yotebieng du PEPFAR, lorsqu'il était en mission d'évaluation du traitement antirétroviral sur les femmes enceintes et allaitantes avant de se rendre à Durban.
Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de problèmes de déperdition le long des différentes étapes, depuis son enregistrement aux consultations prénatales jusqu'à la fin de l'exposition du risque de transmission. Et nous recherchons à l'heure actuelle des voies et moyens pour diminuer cette perte de vue le long de la cascade. Précédemment, avec des financements de PEPFAR à travers l'Institut national de la santé des États-Unis, nous avons évalué ici l'utilisation des transferts monétaires conditionnels, mais on était encore à 80% de femmes retenues le long de la chaîne des soins, ce qui indiquait qu'il y a d'autres problèmes qui se posent, notamment les problèmes de la qualité des soins dans les structures.
Est-ce que ces soins sont gratuits?
Dans les pays appuyés par PEPFAR, qui est le programme d'urgence du président américain pour la lutte contre le VIH, les soins sont généralement gratuits. Dans les 21 pays en Afrique subsaharienne dits prioritaires par l'ONU-SIDA, puisque ces pays regorgent plus de 80% des femmes enceintes VIH positives, généralement ces pays sont appuyés par PEPFAR et les soins sont gratuits.
Dans l'étude justement de PEPFAR sur ce sujet, il est dit « Nous avons les outils en ce moment pour réduire l'incidence des nouvelles infections, mais nous avons besoin d'appliquer ces outils de manière plus efficace. Que voulez-vous dire par là ?
Cela veut dire que nous avons des traitements qui permettent de réduire la transmission de la mère à l'enfant à moins de 1%. Mais quand on regarde les statistiques qui viennent de ces différents pays, les 21 pays que je viens de mentionner au sud du Sahara, on est loin du compte.
Quels sont les obstacles justement à ce bon fonctionnement ?
Le premier obstacle, c'est que quand les femmes viennent en consultation prénatale, là où elles sont diagnostiquées, parfois elles ne reviennent pas accoucher dans la même structure. Mm-hmm. Ou elles accouchent dans la même structure et après quittent la structure pour aller ailleurs. Ce qui veut dire donc que quand elles ne reviennent pas, elles ne sont plus sous traitement. Et si elles ne sont plus sous traitement, le risque de transmettre le VIH chez leur enfant devient élevé.
Marcel Yotebieng, professeur de santé publique à l'Université d'État de l'Ohio, chercheur pour le PEPFAR.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Muniteco avec Nathalie Barge.
La RDC a appelé les compagnies minières à reprendre leur production réduite ces derniers mois par manque de rentabilité. Selon le patronat, la production de cuivre a chuté de 11,6% sur un an au premier trimestre, celle de cobalt de 16,3% et des entreprises ont suspendu leurs activités au Katanga. Le gouvernement a encore revu à la baisse le taux de croissance du PIB de 6,6% à 5,3%. L'inflation au Nigeria a bondi de 16,5% fin juin contre 15,3% en mai, soit le plus haut niveau depuis octobre 2005, a indiqué le Bureau des statistiques.
La Banque centrale doit dévoiler dans 10 jours de nouvelles mesures pour tenter d'enrayer la menace de récession au Nigeria, frappée de plein fouet par la dévaluation du naira par rapport au dollar. L'Algérie et l'Indonésie ont signé 3 accords pour un investissement global de 4,5 milliards de dollars dans le secteur minier. Les sociétés publiques Asmidal et Manal et le groupe indonésien Indorama Corporation lancent cette année 3 projets sur la transformation des phosphates. L'objectif est notamment la production d'1 million de tonnes d'ammoniac, entre autres, selon le ministère des Mines algérien.
C'était la Minute Éco. Merci Nathalie. Votre moment des sports avec Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour Eric.
Football d'abord, le nouvel entraîneur du Sili National, Mohamed Kanfori Bangoura, a un programme ambitieux pour la Guinée.
Oui, le successeur de Luis Fernandez doit qualifier le Sili National pour la Coupe du Monde 2018. Interrogé hier dans Sporama sur VOA Afrique, l'homme s'est dit armé pour relever ce défi.
Je crois qu'avec mon expérience, la connaissance du football que j'ai, je connais les côtés forts, les côtés faibles du football guinéen. Et le football guinéen, certainement, on a un côté fort, ce sont les qualités techniques. Le côté faible se trouve au niveau psychologique. Et je pense que le travail va s'accentuer sur le plan psychologique. Je vais mettre une règle de conduite. Je vais tenir compte des joueurs performants pendant ce moment. Et ils comprendront, n'est-ce pas, la politique que je mets en place. Ils vont accepter la ligne de conduite que je vais mettre en place. Ils vont avoir un très bon état d'esprit, un mental de gagnant. Je crois qu'on va mettre une équipe. D'abord, en passant par le match amical du 30 contre l'Égypte, à partir de là, on va commencer à voir le type d'équipe qu'on va mettre en place.
Cyclisme, 16e étape du Tour de France, Bagassi.
Oui, le vainqueur du jour, c'est le champion du monde, le Slovaque Peter Sagan, qui s'est adjugé in extremis cette 16e étape à Berne, en Suisse. C'est son 3e succès depuis le départ. Sagan, qui a lancé son vélo sur la ligne dans un geste de sprinter, a remonté le Norvégien Alexander Kristoff, qui croyait bien avoir gagné. Mais l'examen rapide de la photo finish a permis de décerner la victoire au porteur du maillot vert, vainqueur pour la 7e fois sur le Tour.
Enfin, en athlétisme, des sanctions contre les responsables russes mises en cause dans le rapport McLaren sur le dopage.
Oui, l'annonce a été faite par le Kremlin qui souligne que les responsables coupables de dopage dans le sport russe seront suspendus le temps de l'enquête. Conformément à ce qu'a exigé l'AMA, l'Agence mondiale antidopage, selon les conclusions du rapport McLaren publié ce lundi, la Russie a triché sur toute la ligne depuis des années, pas seulement en athlétisme et pas seulement lors des Jeux de Sochi en 2014. On a même entendu des appels à une exclusion totale de la Russie des JO de Rio du 5 au 21 août prochain.
C'est tout pour les sports. Merci Bagassi.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, dans Universel. Au menu, antenne libre, des sujets débat. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Ici va le monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Eh bien, c'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Eric Panilakis a été avec vous depuis le Studio 13 à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.